Bonjour madame, bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver pour Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique, présenté par Nanit Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique, qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25%, soit le quart, de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, ses efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique? Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires? À quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées?
Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et des maladies qui sont dues à des microbes.
Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Mietudila, l'invité de ce programme Votre Santé, Votre Avenir. Le docteur Malunga Mietudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, dont l'un des domaines d'intervention est la santé publique. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordée le docteur Malunga Mietudila.
Non, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sanro?
Oui, qu'est-ce que c'est que Sanro? Sanro, en fait, c'est un acronyme pour santé rurale. Donc, c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Sanro. Maintenant, nous l'avons accepté. Et donc, si on peut dire le père de Sanro, c'est l'USAID. Et la mère de Sanro, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises protestantes du Congo. Donc, en 1981, Sanro est né avec l'accord du gouvernement zaïrois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale.
Ah, okay.
Maintenant, le U, là, est devenu ruro-urbaine parce que les villes du Congo ne sont pas tellement différentes des zones rurales.
Merci beaucoup. Alors, dans quelle province Sanro a-t-elle ses activités?
Ah, nous sommes présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention?
Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaire, mais pour des raisons de contraintes budgétaires, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaire. C'est dans le Kasaï.
Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance?
Eh bien, la santé publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons la médecine clinique. La plupart de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Et cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui donne la priorité à la promotion de la santé communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique et la santé individuelle, il y a des zones de superposition. C'est une question simplement de priorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade? Un médecin vous dit, mon malade s'appelle Eugénie. Et l'autre médecin va vous dire, mon malade, surtout, c'est défini comme la République populaire du Congo, il y a le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mon malade a un nom, un individu ou bien des individus.
D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées?
Bon, ça dépend des pays. Si on divise le monde en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les plus importantes diffèrent. Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin des maladies de la pauvreté. Les gens n'ont pas un bon environnement, l'environnement est malsain, donc c'est les gens dans ces pays-là tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays-là, vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau malpropre, des diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies des microbes ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, comme le diabète, les maladies cardiaques. C'est parce que les gens vivent plus longtemps. Ils attrapent des maladies de la dégénérescence, les maladies de la vieillesse. Il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, si on peut contraster le monde développé et le monde en voie de développement.
Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve?
Voilà. Il suffit seulement de regarder les statistiques. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains? Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, il y a le VIH, mais vraiment, la COVID, ces maladies viennent vraiment en quatrième, cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur des enfants. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il des femmes enceintes? Quelle est la situation des femmes enceintes?
Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Ève. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, l'accouchement, la grossesse, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes. De sorte que sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes, on a souvent en Afrique 500 femmes qui meurent. Je peux dire que chaque jour, parce que ce que j'ai dit au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse au moment de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est 100 fois plus que dans les pays développés. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est le malade qui prend la décision de venir à l'hôpital. Et souvent, quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard, parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas, et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement de comportement. Assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires?
Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. Il y a d'abord l'accessibilité physique. Aller au village, dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de soins? 10 km? 15 km? Là, vous avez encore la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de moyen, de bon moyen de transport. Oh là là, j'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des civières et par des gens qui marchent parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire, en effet, en faisant en sorte que certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bon système d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes, que moi j'ai vues, qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou, même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc, c'est un obstacle financier. Troisième obstacle psychologique. Les gens ne croient pas en la médecine qu'ils appellent la médecine des blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de médecine des blancs, médecine des chinois ou médecine des noirs. La médecine est une à cause de certaines pesanteurs sociologiques. Les gens préfèrent ne pas aller à l'hôpital des appellent l'hôpital des Blancs, même s'il y a des Noirs qui travaillent là-bas, mais c'est l'hôpital des Blancs. Alors ils essayent la médecine empirique qui n'a pas toujours l'efficacité qu'on lui donne. Et alors les gens meurent. Donc, obstacle psychologique. Donc ces trois obstacles suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les maladies.
C'était notre entretien avec le docteur Malunga Miatuzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons le cancer de la prostate, un cancer fréquemment diagnostiqué chez les hommes. Un nouveau rapport révèle que les cas de cancer de la prostate augmenteront dans le monde d'ici 2040. Nous en saurons davantage. Ensuite, le docteur Bello Aboubakar Mohamed, professeur nigérien d'oncologie, discute des défis et des opportunités dans la lutte contre le cancer de la prostate en Afrique. Enfin, quel est le meilleur aliment pour réduire le risque de cancer de la prostate ? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est un diagnostic dévastateur auquel sont confrontés de nombreux hommes dans le monde entier. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus répandus chez la gente masculine, avec plus de 1 400 000 personnes diagnostiquées en 2020. Au moins 375 000 en sont décédées, selon l'Institut international de recherche sur le cancer. La prostate est une glande vitale de l'appareil génital masculin. Le cancer de la prostate se développe souvent lentement et ne présente pas de symptômes au stade précoce. Cependant, des problèmes pour uriner, du sang dans l'urine et le sperme, ainsi que des douleurs osseuses sont quelques signes du cancer de la prostate. Une nouvelle analyse de la commission du Lancet suggère que les cas de cancer de la prostate doubleront dans le monde d'ici 2040. Ginny Niwa nous en dit plus.
Jo Appiah, athlète de haut niveau, célèbre pour avoir détenu de nombreux records d'Europe et de Grande-Bretagne en haie, s'est retrouvée face à un adversaire inattendu en 2021, le cancer de la prostate. Se remémorant son parcours, Appiah raconte la situation.
In a way, I'm lucky.
D'une certaine manière, j'ai de la chance.
Didn't have no symptoms.
Je n'avais aucun symptôme.
I wasn't really aware of prostate
Je n'étais pas
cancer.
Vraiment au courant du cancer de la prostate.
But my friend.
Mais mon ami m'a appelé et m'a dit, j'ai ce cancer. J'ai répondu, comment ça? Tu as ce cancer? Il a le même âge que moi. Il est en bonne santé et en pleine forme. Nous nous connaissons par le biais du sport, alors j'ai été choqué. Mais il m'a encouragé à aller me faire dépister.
Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez les hommes, représentant environ 15% des cas de cancer dans le monde. Une analyse récente de la commission Lancet prévoit une augmentation importante du nombre de cas annuels de cancer de la prostate, qui passerait de 1,4 million en 2020 à 2,9 millions en 2040.
Actuellement, environ 1 400 000 hommes sont diagnostiqués chaque année avec un cancer de la prostate. Ce chiffre devrait doubler au cours des 10 à 15 prochaines années et presque tous les cas supplémentaires se produiront dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Les experts affirment que les gouvernements doivent se préparer de manière proactive à faire face à cette augmentation du nombre de cas en mettant en place des systèmes solides de diagnostic et de traitement précoce. En outre, la sensibilisation joue un rôle essentiel. Les données du programme GloboCan 2020 indiquent que le cancer de la prostate est le deuxième cancer le plus diagnostiqué chez les hommes d'Afrique subsaharienne. Selon les observateurs, les décès récents des Afro-Américains Lou Gossett Jr. et O.J. Simpson à moins d'un mois d'intervalle nous rappellent que les hommes noirs sont plus susceptibles de se voir diagnostiquer un cancer de la prostate et d'en mourir. Selon Prostate Cancer UK, un homme noir sur quatre sera touché au cours de sa vie.
La bonne chose, c'est que mon cancer a été détecté tôt et qu'ils ont fait le test de suivi, à savoir le PET scan. Lorsque j'ai fait un PET scan, c'est pour savoir si le cancer s'est propagé à partir de la prostate. Lorsque j'ai fait cet examen, le mien était à l'intérieur de la prostate, ce qui signifie qu'il est possible de faire quelque chose, ce qui me donne beaucoup plus d'options de traitement.
Comme le montre l'histoire d'Appiah, la détection précoce par le biais d'un dépistage proactif peut améliorer considérablement les résultats du traitement.
Le professeur Bello Aboubakar Mohamed est le principal consultant en oncologie clinique et en radiothérapie à l'hôpital national d'Abuja. Il discute des mesures de prévention et de traitement du cancer de la prostate.
The incidence of prostate cancer in Africa is really, really difficult to see.
L'incidence du cancer de la prostate en Afrique est vraiment très difficile à évaluer pour de nombreuses raisons. Nous n'avons pas de programme de dépistage institutionnalisé, nous n'avons pas de registre du cancer dans les pays africains et en fait, il n'existe aucun service de soins contre le cancer dans 22 des 54 pays africains. Et il est important de noter que le cancer de la prostate est le premier cancer chez les hommes en Afrique subsaharienne. C'est donc là l'incidence qu'il nous faut vraiment connaître, et non les chiffres que c'est la première cause de décès et de mortalité dans tous les cancers en Afrique subsaharienne chez les hommes. Mais quand on parle de la prévalence générale, incluant désormais les hommes et les femmes, elle est constante au numéro 3 et cette incidence s'étend à l'ensemble de la race noire, à l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Et on s'entend à ce que cette incidence continue d'augmenter et que d'ici 2030, elle aura atteint une ampleur telle qu'elle prendra des proportions épidémiques. Sauf que quelque chose de fondamental se produit et cela ne prendra que 6 ans environ. Il faut donc des efforts concertés pour s'assurer que l'incidence diminue. Et certains des symptômes sont que l'urine se trouve généralement autour des voies urinaires parce que le véritable coupable qui en est la cause est le fait d'une hormone appelée testostérone. C'est l'hormone mâle, c'est qui donne la virilité à un homme. Et plus le niveau est élevé, plus il est probable que cela agisse sur la prostate. Ainsi, les effets de la testostérone sur les cellules de la prostate se produiront à mesure que vous vieillirez sur le cancer. Vous aurez également des mictions, même douloureuses. C'est très douloureux parce que cela bloque l'orifice d'où sort l'urine. Le moyen le plus simple de confirmer si quelqu'un a le cancer de la prostate est de faire un simple test sanguin appelé antigène spécifique de la prostate ou PSA qui peut sauver la vie. Et nous savons également que le cancer de la prostate devient plus répandu à mesure que la personne vieillit. Vous commencez donc à faire des tests antigéniques spécifiques de la prostate à partir de 40 ans, parce qu'un homme noir sur 4 développera un cancer de la prostate au cours de sa vie avant d'atteindre l'âge de 80 ans, parce qu'on suppose qu'il s'agit d'une maladie de la race noire, parce que nous avons plus de tests. Les études ont montré que les hommes noirs ont tendance à avoir plus de testostérone et par conséquent, à avoir plus de cancers de la prostate que les hommes blancs. Et si vous allez aux États-Unis, par exemple, c'est un homme sur quelques-uns qui développera un cancer de la prostate au cours de sa vie, alors que les Américains noirs ont également les mêmes statistiques, soit 1 sur 4. Je pense que nous avons beaucoup de travail à faire pour faire prendre conscience aux gens qu'ils doivent aller à l'hôpital pour un dépistage préventif. Et nous devons également insister sur le fait que le gouvernement doit institutionnaliser les programmes de dépistage, que tout le monde doit le faire en raison du fardeau économique. Le cancer de la prostate est un cancer indolent. Sa croissance est lente. Donc, si vous le détectez tôt, vous pouvez vivre 40 ans, 50 ans sans aucun problème. Mais la plupart de nos patients, 86% de nos patients, se présentent très tard alors qu'ils ont déjà de métastases, c'est-à-dire qu'elles se sont propagées. Et même là, il est possible de guérir le cancer de la prostate.
To cure prostate cancer.
Que savez-vous des mesures de prévention du cancer de la prostate et des premiers signes de la maladie? Que faites-vous pour maintenir une bonne santé en général? Voici quelques réactions de Mombasa au Kenya.
À ma connaissance, beaucoup d'hommes souffrent de cette maladie et quand on leur demande pourquoi ne pas aller se faire soigner, ils croient que c'est du vaudou ou de la sorcellerie. Cette maladie est réservée aux hommes et il n'existe aucun remède. La plupart des gens ne le savent pas en raison d'un manque d'éducation et d'un manque de compréhension, mais ils ont lu et sont informés sur la maladie. Il serait plus facile d'obtenir un traitement. Beaucoup sont morts parce qu'ils croyaient au vaudou.
C'est la première fois que j'entends parler de cette maladie. Je n'ai jamais vu personne souffrir de cette maladie et je n'ai jamais été témoin de quelque chose comme ça.
J'entends dire que des hommes atteints d'un cancer de la prostate ne parviennent pas à uriner. Or, dans ma propre étude, oui, je sais que le cancer de la prostate pose un tel problème et que ses symptômes sont présents en tant que tels. Personnellement, je n'ai jamais posé le diagnostic sur le cancer de la prostate, mais j'ai entendu dire que cela dérangeait de nombreuses personnes. Par exemple, Faux Mandela a contracté cette maladie. L'actuel secrétaire américain à la Défense en est atteint. C'est donc une maladie qui touche les hommes.
Je ne suis pas allé me faire tester parce que je ne me doutais pas d'être atteint de la maladie. Parce que dans mes mouvements quotidiens, je n'ai jamais ressenti de douleur ou quoi que ce soit qui pourrait me donner l'impression d'avoir ce genre de maladie. Mais l'autre raison est que lorsque je suis dans la rue et que l'on parle de la procédure utilisée pour tester la prostate, j'ai peur parce que j'ai entendu dire que ce n'était pas très excitant.
La maladie fait gonfler les organes génitaux chez l'homme, tout comme les femmes ont le sein et les jambes gonflées. Parfois, j'entends dire que la maladie est causée par les moustiques.
Mohamed Maika Din Swere a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2022. Le résident londonien suit actuellement un traitement contre la maladie et espère sensibiliser à travers son expérience.
J'ai moi-même été à l'hôpital universitaire Princesse Royale. J'y suis allé le jour même. Ils sont arrivés, ils ont dit que le foie allait bien, le rein allait bien. Qu'avait-il de plus comme test à faire? Alors, quand ils ont fait tous les tests vers minuit ou 11 heures, les oncologues, les médecins sont venus me voir et ils m'ont dit que c'était peut-être un cancer de la prostate. J'ai parlé à ma femme et je lui ai dit, on m'a diagnostiqué un cancer de la prostate. Il m'était difficile de l'avaler. Je peux le dire à toute la communauté noire. Le simple fait de voir les premiers tests m'a sauvé la vie. Jusqu'à présent, parce que le dépistage précoce a été fait, nous avons sauvé une vie atteinte d'un cancer de la prostate. Parce que d'où je viens, où je suis né en Sierra Leone, où il n'y a pas un meilleur traitement, beaucoup de nos frères et sœurs meurent à cause du cancer de la prostate. Les tests précoces sauvent des vies. Quand le corps est fatigué, je ne force pas le problème. Je n'en fais pas trop, je me détends juste. Eh bien, je pense qu'en faisant de l'exercice ou en faisant 30 minutes, marcher et revenir à la maison, pas seulement vous allonger sur le lit ou sur le canapé, je pense que cela peut contribuer aussi à mon bien-être. Qu'en est-il de l'alimentation? Parfois, lorsque vous suivez ce traitement, votre alimentation change. Eh bien, en tant qu'Africain venant de Sierra Leone, je mange toujours ma nourriture traditionnelle, mais il y a une limite sur certains aliments que je ne mange pas normalement, parce qu'il faut manger pour garder ses forces, parce que le traitement n'est pas un traitement facile. L'année dernière, pendant mon traitement de chimiothérapie, je faisais des challenges, une centaine de pompes pour l'ensemble de mon traitement de chimiothérapie, afin de récolter des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate. Je le répète, le dépistage précoce sauve des vies.
Maintenir une prostate en bonne santé est essentiel pour le bien-être général d'un homme. Les spécialistes de l'Alliance en urologie recommandent d'incorporer des aliments favorables à la prostate pour soutenir sa santé. Ces aliments comprennent les tomates qui contiennent du lycopène, susceptible de réduire le risque de cancer de la prostate et de ralentir la croissance des tumeurs. Les poissons gras tels que le saumon, le maquereau et les sardines sont d'excellentes sources d'acides gras oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires. L'ail contient des composés sulfurés censés aider à protéger contre le cancer de la prostate et peuvent aussi aider à faire baisser la pression artérielle et à prévenir les caillots sanguins. Les haricots, les lentilles et les pois sont d'excellentes sources de fibres, de protéines et d'autres nutriments variés. Ils sont bons non seulement pour la santé générale, mais peuvent également aider à supprimer la croissance des tumeurs.
C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, dont l'invité était le docteur Malunga Nyatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de Santé. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.